assez réguliers à la fin d'une intervention qui viennent nous voir en disant « Mais madame, est-ce que vous pensez que je peux m'en sortir ?» ou « Je pense que je suis accro » ou « Vous voyez que vous avez un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans qui vous dit ça. » Vous dites voilà, on sent qu'il y a une souffrance derrière et que l'enfant il a bien conscience que à la fois il y est capté, il y passe beaucoup de temps, mais que c'est il aspire à autre chose.
Je passe environ 7h20 par jour sur mon téléphone.
Moi, ma consommation Twitter, c'est genre je sais pas, genre tout le temps en fait.
Un je like, une photo que j'aime pas trop, je like quand même. Moi, c'est pas du vrai amour. Moi, je like, je like, je like.
Aujourd'hui, je reçois Cyril et Gaëtan Mart. Ensemble, ils ont fondé Dictia, implanté dans le Morbihan en Bretagne. Dictia est composé d'une branche associative pour sensibiliser les jeunes au bon et au mauvais usage du numérique, et d'une branche entreprise pour aider les particuliers et les entreprises qui aimeraient approfondir ce sujet. Gaëtan et Cyril font partie des rencontres qui m'ont été permises par le podcast, et nous échangeons régulièrement sur nos projets respectifs. Et à chaque fois que je discutais avec eux de leur expérience sur le terrain, je concluais en disant « il faut absolument qu'on enregistre un épisode ensemble ». Et ça y est, on y est. Ces deux personnes généreuses et passionnées ont rencontré énormément de profils, ce qui nous permet aujourd'hui de discuter des grandes problématiques de l'hyperconnexion et des différentes manières de sensibiliser. Notre échange permet aussi de parler de culpabilité, nous donne des voix pour aborder le sujet de l'hyperconnexion même avec les plus jeunes, et nous donne des pistes pour revaloriser les stimulations hors des écrans lorsqu'ils s'ennuient. Ou encore, on va parler des points de bascule dans les vies connectées auxquels il faut être vigilant, et pour lequel il est pertinent de prendre le temps d'analyser la situation, de poser des objectifs en amont et de fixer des règles, en se faisant accompagner si besoin. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'épisode. Il débute par Gaëtan et Cyril qui vous expliquent leur activité pour que vous puissiez bien comprendre leurs objectifs et leur vision. Je vous laisse avec Gaëtan et Cyril. Bonne écoute.
Nous, notre activité est centrée sur l'éducation numérique, convaincue que c'est plus une option aujourd'hui et qu'il faut se retrousser les manches pour aller dans ce domaine passionnant, qui est relativement nouveau parce qu'on est face à toute une génération d'adultes qui n'ont pas reçu cette éducation numérique. Donc notre activité consiste en tout cas à encourager les adultes et à aller dans ce domaine avec leurs propres enfants et aussi parfois pour eux-mêmes, parce que le constat qu'on fait souvent, c'est que les enfants ont vraiment besoin des adultes dans leur relation au temps passé sur l'écran, mais les adultes eux-mêmes reconnaissent qu'eux-mêmes parfois n'ont pas toujours la maîtrise non plus de ce qu'ils font du temps passé.
Notre cœur de métier, notre cœur d'activité, que ce soit auprès des jeunes ou auprès des adultes, c'est d'aider les personnes à faire un bon usage de ces outils, de faire en sorte que les outils numériques soient et restent au service des personnes et du bien commun.
Super, bon, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés, c'est parce qu'on a cette vision commune sur le bon usage des écrans et le fait qu'une éducation soit nécessaire. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus quelles sont vos professions à la base et comment vous en êtes arrivé à faire ça ?
Alors, à la base, moi, je suis assistante sociale et je pense que ce qui m'a poussée, c'est surtout que je fais partie de cette génération qui a connu vraiment l'avant et l'après. Et étant au contact des jeunes, parce qu'après mon métier d'assistante sociale, j'ai beaucoup été dans l'animation auprès des jeunes, et j'ai vraiment vu une évolution en fait de pratique. Voilà, on est aussi parents, et donc avec notre expérience professionnelle et personnelle, on a fait ce constat qu'il y a 5 ans d'un décalage entre les adultes et les jeunes, et cette nécessité de favoriser le dialogue intergénérationnel pour justement ne pas bannir les écrans ni les aduler, hein, trouver un équilibre entre les deux. Et voilà, c'est ce qui nous a poussé en tout cas à nous lancer dans l'activité.
Et moi, pour ma part, voilà, je suis informaticien d'origine, hein, donc j'ai exercé pendant 20 ans dans l'industrie. Et voilà, donc c'est le milieu, j'allais dire, sur son aspect technique, hein, d'outils numériques que je connais bien. Et effectivement, j'ai pu aussi, au sein même de la sphère professionnelle, voir aussi les difficultés auxquelles les personnes pouvaient être confrontées. Alors là, je parle pas des difficultés techniques, on aura peut-être l'occasion d'y revenir ensemble, tout ce qui tourne autour de la fracture numérique, mais effectivement, du bon usage même, hein, des outils, alors soit professionnels qui vont s'immiscer dans l'affaire personnelle, hein, toute la question de l'équilibre vie pro, vie perso, du droit à la déconnexion, etc., qui est pas toujours simple à gérer pour des cadres ou des managers, ou inversement, des outils perso qui s'insinuent petit à petit, qui dans la sphère professionnelle où on va retrouver effectivement des personnes, hein, que ce soit des managers ou des salariés, quel que soit le métier, qui vont faire un usage personnel de leurs outils sur leur temps de travail et avec un tas de questions évidemment que ça pose derrière de sécurité au travail, évidemment d'efficacité, voilà, et qui vont poser des questions ou des problèmes, hein, aux employés eux-mêmes ou aux managers.
Et donc, c'est super intéressant de voir que tous les deux, c'est vraiment votre expérience pourtant très différente sur le terrain, empirique, qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet à la base.
Exactement, ouais. En fait, pour le coup, Cyril était dans le domaine de l'informatique et des technologies, et moi absolument pas. Et pour rien de cacher, j'étais même réticente, en fait. c'était pas un domaine qui m'attirait. Ce qui m'a attirée, pour le coup, moi, c'est vraiment l'interaction entre l'homme et la machine, en fait. Ouais. Et voir en quoi la machine, en fait, peut aliéner la personne et comment on est en rapport, en fait, avec l'outil. Et voilà, moi, je suis passionnée d'anthropologie, d'éthique. Et donc, voilà, ça, c'était mon moteur. Et finalement, je me suis passionnée quand même pour ce sujet des outils numériques, des technologies de l'information et de la communication. Parce que je suis la première aussi, enfin, voilà, à m'en servir et à en tirer tous les bénéfices. Et en même temps, au fur et à mesure qu'on s'est intéressé à ce sujet, on a rencontré beaucoup de personnes, là, en 5 ans, qui souffrent, en fait, justement, de leur rapport à la machine, de leur rapport à l'outil. Et donc, voilà. Jour après jour, on est toujours convaincu qu'il faut y aller. Et justement, par rapport à ce que disait Cyril, hein, des habitudes qui vont s'installer au travail dans la relation entre les outils professionnels et les outils personnels, on se dit qu'on a tout intérêt à encourager déjà les enfants et les adolescents dans leur pratique aussi scolaire des outils numériques, à prendre de bonnes habitudes pour justement préparer la vie professionnelle de demain.
Oui, donc il y a énormément d'enjeux, que ce soit personnel, professionnel, sur l'évolution, sur l'avenir, etc. Et donc, ok, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Parce que du coup, moi, ce qui m'intéressait dans le fait de vous avoir aujourd'hui sur le podcast, c'est que vous couvrez justement un public très large. Vous allez intervenir auprès de primaires, vous allez intervenir auprès de collèges, lycées, d'adolescents et auprès d'adultes, dans plein de situations différentes, dans plein de cas différents, par rapport au travail, par rapport à la vie personnelle, etc. Et donc, vous avez une vision très 360 du problème. Et moi, ça m'intéressait parce que, et même en plus, il me semble que, si je ne me trompe pas, vous intervenez dans des milieux plus précaires, plus prioritaires et dans des milieux où c'est plus aisé, où c'est plus un luxe qu'on peut se permettre que de s'intéresser à son usage des écrans.
Effectivement, c'est un sujet, Lisa Gaëtan, voilà, comme tu le disais, Lorraine, hein, qui va toucher tous les âges et puis effectivement, je le disais tout à l'heure, tous les métiers, hein, parce que qu'on soit finalement salarié dans une entreprise, quel que soit le domaine, qu'on soit enseignant, éducateur, médecin, voilà, on est soi-même utilisateur ou on accompagne des personnes, hein, selon son métier, selon sa fonction, qui eux-mêmes sont utilisateurs d'outils numériques. Et puis effectivement, hein, il n'y a pas de milieu social qui n'est pas concerné non plus, hein, par ces thématiques-là. Et qu'on soit, voilà, effectivement, j'allais dire d'un milieu assez aisé, qu'on soit dans un domaine où on est un peu plus précaire, que ce soit socialement, économiquement, ben voilà, on est aussi touché par ces questions-là. Et on a plaisir aussi au sein de notre activité, justement, à pouvoir intervenir auprès de ces différentes personnes, quelle que soit leur situation. Et c'est vrai que c'est toujours une joie aussi d'intervenir auprès d'enfants handicapés, d'enfants qui rencontrent des difficultés d'apprentissage, voilà, ou au contraire parfois de personnes, on va dire, voilà, bien insérées socialement, CSP et autres, et qui pourtant rencontrent les mêmes galères à titre personnel ou à titre de parents, hein, dans l'éducation numérique de leurs enfants.
C'est un sujet qui ne laisse personne de côté. Super. Ben maintenant qu'on sait que vous avez une vision très très globale du problème et des populations qui le subissent, quels sont les points communs qui concernent absolument tout le monde?
En tout cas, un des points communs que je verrais aujourd'hui, hein, avec les en tout cas du côté des adultes, c'est encore aujourd'hui, alors ça va changer, hein, mais c'est une certaine méconnaissance, en fait, du fonctionnement des outils numériques d'aujourd'hui, en fait, avec leur mécanisme, leur logique de captation de l'attention, etc. Et pour le coup, dans tous les milieux, on retrouve, en fait, ces adultes qui nous disent parfois à la fin d'un atelier, d'une conférence, en fait, c'est peut-être moi qui ai un vrai problème, qui suis complètement accro, enfin, je suis venue pour mes enfants, et puis... Et ça, on le voit dans tous les milieux. Hein, des adultes qui disent Alors soit qu'on avait déjà conscience ou qui ont pris conscience après un temps avec nous, que peut-être ça mériterait qu'ils s'interrogent un peu sur leur propre pratique, ou quand par exemple on fait regarder aux personnes leur temps d'écran sur leur smartphone, certains c'est la première fois qu'ils le font, on est là à côté pour les récupérer. Mais parce que c'est un peu un choc de se dire ouais, non mais c'est pas possible, bah, là pour le coup la machine elle se trompe pas. Et donc voilà, ça c'est commun à tous les milieux, en tout cas des adultes qui du coup n'ont pas eu ces outils quand ils étaient enfants, adolescents, qui ont pris des habitudes plutôt adultes et qui s'étaient pas tout à fait interrogés encore aujourd'hui.
Ou les générations de parents aujourd'hui, nouveaux parents qui de fait ont eu l'occasion de voilà de manipuler voilà des réseaux sociaux, qui ont eu l'habitude d'avoir Facebook ou Insta, etc. selon leur génération, mais qui n'ont pas non plus eux reçu une éducation à l'usage de ces outils. Hein, donc voilà, on espère que la prochaine génération qui est actuellement sur les bancs de l'école, les bancs des collèges et des lycées, aura cette chance. En tout cas, c'est la voie que ça prend d'avoir cette éducation pour voilà, mieux gérer ces outils.
Ouais, donc c'est vraiment ça qu'on constate en commun chez les différentes populations, c'est un manque cruel d'éducation et de sensibilisation au sujet, en fait. Dans tous les cas, que ce soit adultes ou les nouvelles générations, on sent que ça a été effectivement un boom, ces technologies d'information et de communication qui sont apparues, qui ont tout transformé en l'espace de 10 à 20 ans et pour lesquelles on n'a pas du tout adapté nos éducations et nos comportements. Et qu'est-ce que ça crée du coup aujourd'hui ce manque d'éducation, c'est des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont un rapport problématique à l'hyperconnexion, qui ressentent un mal-être sans comprendre que ça vient de là. Est-ce que souvent vous avez des retours comme ça?
Alors effectivement, cette problématique de l'hyperconnexion, on pourrait dire qu'aujourd'hui est peut-être le problème transversal un peu majeur, hein, quels que soient les milieux, quels que soient les âges. Après, il y a d'autres problématiques hein, liées, voilà, on parle beaucoup aujourd'hui sur le cyberharcèlement, sur les contenus inappropriés ou autres, mais effectivement cette problématique de l'hyperconnexion est vraiment présente. Alors on va avoir différents petits peu types, hein. Effectivement il va y avoir des personnes qui ont conscience hein, de cette difficulté personnelle ou dans le cadre de l'éducation et qui sont à la recherche de solutions et qui pour certains, voilà, notamment les parents, se sentent un peu démunis, un peu seuls ou ont l'impression de lutter contre un mouvement voilà un peu général, hein, et c'est toute la problématique notamment des enfants qui sont équipés aujourd'hui de plus en plus tôt hein, au niveau des smartphones notamment, hein, on voit que petit à petit l'âge de remise du premier smartphone diminue hein, d'année en année. Donc voilà, à l'époque, il y a quelques années, c'était la période charnière, était un petit peu l'entrée au collège et pour au lycée, il y a bien longtemps, on va dire, à l'échelle du numérique. Ensuite, c'est l'entrée au collège et puis aujourd'hui, on retrouve parfois, alors selon les établissements, des fois là, une bonne partie d'une classe de CM qui est déjà équipée de smartphone, voire parfois de CE. Donc, c'est vrai qu'on sent que les élèves sont équipés de plus en plus tôt. Donc, les parents qui, eux, essayent justement de retarder cette échéance ou en tout cas qui se sont fixés les repères éducatifs, ben voilà, peinent parfois à lutter, à tenir leur volonté d'engagement, de peur aussi de marginaliser leur enfant, de peur de les exclure un petit peu du lien avec leurs camarades.
Et pour répondre à ta question, en tout cas, ce qu'on peut constater chez les adultes qui prennent conscience en fait de leur hyperconnexion, ça peut être de la culpabilité en fait. Et soit c'est un sujet finalement qui voulait pas forcément regarder en face, et au cours d'un atelier un va oser en parler, puis un autre va dire bah moi aussi, et puis c'est parti en fait. Et on sent sur ce sujet la nécessité aussi de permettre aux personnes d'en parler en fait, d'oser dire déjà, d'oser se regarder en face, d'oser reconnaître que le temps est peut-être pas très ajusté, enfin le temps passé est pas très ajusté, et peut-être de rencontrer d'autres personnes pour en parler, et ce sentiment de culpabilité, de honte, de gêne est récurrent, ça dans ce qu'on peut voir chez des parents qui finalement nous sollicitent, comme Cyril, voilà, pour l'éducation numérique de leurs propres enfants. Et quand délicatement on leur fait pointer, voilà, est-ce que vous-même vous êtes exemplaire, etc. Et que on se rend compte que peut-être pas, et là on sent bien qu'on touche à quelque chose de délicat parce que c'est pas que les personnes voudraient pas l'être, mais c'est qu'elles ne maîtrisent pas forcément, en fait. Mmh, et là, ça devient compliqué, en fait. Mmh. Parce que c'est pas du jour au lendemain, une fois qu'on a pris conscience, qu'on va changer une pratique, quoi. Donc, ça, c'est un point assez récurrent et qui est problématique, en fait. Ce ressentiment, en fait, de décalage entre ce qu'ils voudraient transmettre aux enfants et en fait, leur propre pratique d'adulte.
Effectivement, on va avoir un panel un peu différent de gens conscients de cette difficulté, à titre de parents ou à titre personnel, des personnes qui le découvrent parce que justement, voilà, ils ont suivi telle ou telle action de prévention ou ils ont été sensibilisés au sujet. Et parfois, voilà, ils le découvrent pour leurs enfants et, comme le dit Gaëtan, ils le découvrent finalement pour eux-mêmes. D'autres parents ou d'autres personnes qui voient pas le problème, parce que pour eux le numérique fait partie de la vie, ou au contraire estiment qu'il y a pas de problème, ils gèrent. Ce qui est pas toujours le cas. Donc on va avoir un différent degré, voilà, entre prise de conscience, culpabilité, inconscience au sens de pas avoir conscience d'un risque. Et effectivement, on va avoir tout ce panel de gens en face de nous.
Non, parce que ça montre bien aussi que cette dissonance entre ce qu'on s'imagine, ce qu'on se projette, surtout si on est dans un projet d'avoir des enfants, on se dit peut-être facilement qu'on va pas mettre trop d'écran ou etc. Et puis on se retrouve confronté à la réalité où effectivement on voudrait donner une image à son enfant qui n'est pas celle qu'on arrive à respecter soi-même, parce que là ça rejoint des choses qu'on a déjà évoquées dans le podcast, mais sont conçues pour qu'on y passe beaucoup de temps et ça marche très bien sur nos cerveaux, sur nos psychologies, sur notre cognition. Donc forcément ça crée beaucoup de culpabilité. Moi c'est quelque chose c'est un retour que j'ai très souvent aussi, à l'écoute du podcast, ça m'a permis de comprendre et de déculpabiliser. Et une fois qu'on a passé cette phase de culpabilité, je ne sais pas comment vous le percevez, mais du coup, il y a plus de force pour faire pour agir ensuite, quoi.
Oui, effectivement, parce que déjà, les personnes se disent, le problème, c'est peut-être pas d'abord moi.
Oui, voilà, tout à fait.
Effectivement, c'est des outils comme tu le dis, Lorraine, qui ont été conçus pour la plupart, pas non plus mettre tous les outils dans le même sac, mais globalement, qui sont utilisés au quotidien, notamment les réseaux sociaux, un centre de jeux vidéo et autres, sont conçus de cette manière-là. Donc, c'est aussi déculpabilisant de comprendre qu'on est pris dans un mécanisme, dans un piège, et puis qu'on n'est pas seul. Qu'on n'est pas seul, et puis qu'il y a des moyens d'avancer. Et ça, c'est vrai que c'est important. Et ensuite, ça, c'est aussi sur lequel on essaie d'être vraiment attentif, c'est-à-dire de prendre, de pas arriver avec des injonctions, y compris, comme tu le disais, pour des parents ou des futurs parents, de dire, la règle, c'est pas d'écran machin, pas truc, et puis finalement, on voit bien qu'au quotidien, même avec la meilleure volonté du monde, c'est pas toujours aussi simple. Et pour peu que, selon nos horaires de travail, selon si on est parent célibataire, selon l'âge des enfants différents, tout d'un coup, l'idéal qu'on avait, l'idéal éducatif ou en tout cas les valeurs qu'on veut transmettre, c'est pas toujours si simple au quotidien. Effectivement, c'est une bataille parfois de tous les jours. Et c'est important de prendre les personnes aussi là où elles en sont et de les aider à avancer à leur rythme pour essayer de tendre vers quelque chose peut-être de mieux, de plus équilibré, mais sans leur asséner des choses qui devraient être normes, entre guillemets, même si évidemment c'est important d'avoir des repères et les personnes nous demandent aussi des repères.
Oui, il y a un équilibre à trouver entre, effectivement, je suis d'accord avec vous, ne pas ajouter d'injonctions qui sont déjà énormes dans nos quotidiens et donner des clés et des repères pour s'en sortir. Maintenant qu'on a pas mal parlé des adultes, est-ce qu'on pourrait aller un petit peu s'intéresser aux populations plus jeunes ? Ça m'intéresse de savoir si quand vous faites des interventions de sensibilisation, des conférences, des ateliers, vous trouvez des jeunes plutôt réceptifs, curieux de ce sujet, ou est-ce que c'est difficile de les sensibiliser d'une manière générale ?
Ah, la question est intéressante parce qu'il y a deux mouvements. Le premier mouvement, en tout cas, est plutôt réticent.
D'accord.
Quand on arrive, on sent bien qu'il n'y a pas un tapis rouge. Alors, soit c'est dans la manière dont ça a été présenté, du style, vous allez avoir une asso qui va vous parler du danger des écrans, donc c'est sûr que ça passe pas.
Ouais.
Parce qu'il y a un peu cette vision et cette approche, en fait, quand on va parler du sujet, des écrans, du numérique, d'Internet, par la porte de la problématique. Et finalement, on entre par le pathos, quoi, par ce qui va pas. Et du coup, c'est difficilement entendable, je pense, par les jeunes, et ce que je comprends complètement.
Surtout les adolescents, effectivement.
Ouais, même en primaire, hein, du coup, ça peut aussi avoir cet effet un peu rebutant. Ouais. Et en fait, du coup, dans un deuxième mouvement, une fois qu'ils ont compris qu'en fait, on est passionné par le sujet, que c'est un univers qu'on aime et qu'on connaît, et qu'on leur apporte une connaissance en fait sur les nouvelles technologies, on n'arrive pas avec des recommandations, on arrive d'abord avec notre connaissance du sujet, notre intérêt pour le sujet, de leurs pratiques, etc. Là, en fait, quand on arrive à créer une alliance en fait avec des jeunes, avec un groupe, et ben là, on peut entrer en dialogue et en leur apportant de la connaissance. Et en fait, quand on les interroge, ils connaissent très bien les dérives, les problématiques. Et là, peuvent être capables d'exprimer eux-mêmes, effectivement, qu'ils ont déjà perdu la maîtrise, quoi. Mmh. Et donc, dans un deuxième mouvement, on sent de l'intérêt, en fait.
Mmh. Il y a vraiment ce premier mouvement du « c'est mon outil, c'est mon espace, c'est oui. de liberté, on ne vient pas y toucher ». En plus, on sait très bien qu'il y a cette vision des vieilles générations qui ne peuvent pas comprendre ce qu'ils vivent en ligne. Et donc... Après, quand je dis vieille génération, évidemment, c'est vraiment avec des pincettes
pour parler aux
adolescents. Mais donc, dans l'idée, c'est vraiment venez pas toucher à mon espace de liberté. Mais donc, il y a quand même cette curiosité et cette conscience, tu disais, donc, de pas mal de problématiques.
Oui, alors effectivement, selon les âges, hein, on voit bien que en primaire, il y a déjà un certain nombre, comme le disait Gaëtan, hein, quand on discute avec des enfants, que on a passé cet écueil de on va nous faire la leçon sur les écrans, d'enfants qui se livrent. Et parfois, c'est régulier à la fin d'une intervention. Qui viennent nous voir en disant « Mais madame, est-ce que vous pensez que je peux m'en sortir ?» ou « Je pense que je suis accro ?» Vous voyez que vous avez un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans qui vous dit ça. Vous dites « Voilà, on sent qu'il y a une souffrance derrière et que l'enfant, il a bien conscience que, voilà, à la fois, il y est capté, il y passe beaucoup de temps, mais qu'il aspire à autre chose. Hein. Il aspire à autre chose. » Donc, voilà. Puis après, il y a une naïveté, évidemment, de certains, hein, ces âges-là, sur les risques qu'ils peuvent encourir, hein, quand ils sont en ligne avec des rencontres, avec des inconnus, pas toujours, évidemment, bienveillants, les risques d'être confrontés à du contenu inadéquat, de la pornographie ou autre, des contenus hyper violents. Donc ça, voilà, ils sous-estiment souvent ce risque-là. Et ensuite, après, effectivement, au niveau des adolescents, il y a une conscience plus ou moins claire, puis on veut plus ou moins voir, hein, des fois aussi, parce que il y a toute une partie de la vie sociale qui se vit en ligne, parce que voilà, finalement, on y trouve aussi évidemment un certain plaisir et que on n'est pas forcément prêt à y renoncer.
Hein,
et là où ça devient aussi intéressant, tous les âges sont intéressants, mais où on peut interpeller un peu plus et dialoguer sur les jeunes avec justement toute cette question autour de la liberté, hein, et de parce que quand on est en primaire, en théorie, c'est encore papa et maman qui mènent la barque. Après, évidemment, quand on arrive au lycée ou quand on est étudiant, on est censé avoir une certaine autonomie ou en tout cas acquérir une certaine autonomie dans cette gestion personnelle des outils, du temps d'écran et autres. Et c'est là où on voit petit à petit, au fur et à mesure qu'il y a la prise de conscience qui est faite ou qui se fait, des jeunes qui nous disent moi j'ai envie de changer des choses, hein. Et certains l'ont fait déjà, d'ailleurs ils nous ont pas forcément attendu, hein, ils nous le partagent en disant moi ce que j'ai réajusté dans ma vie par rapport aux outils numériques, hein, et parfois c'est radical. Et inversement, d'autres qui nous disent clairement je sais, mais aujourd'hui j'ai pas envie. Voilà, hein, donc clairement le disent je sais, c'est la volonté n'est pas là, hein, donc elle viendra sûrement peut-être avec le temps, mais en tout cas au moins ils ont conscience, hein, que après la question, c'est pas parce qu'on a conscience que forcément on va tout de suite passer à l'acte, hein. C'est pas parce qu'un fumeur sait que c'est pas bon de fumer que tout d'un coup il va arrêter spontanément du jour au lendemain. Il y a plein de choses qui vont se jouer sur ce qu'on y trouve, sur des compensations, sur une pression sociale, sur plein de choses, hein, des habitudes qui ont été prises, et voilà. Ça demande de faire du chemin, d'où cette importance d'être aussi à sensibiliser, mais parfois aussi accompagner.
Et quand vous avez donc des personnes qui viennent vous voir comme ça à la fin des conférences, donc des enfants du coup parfois, qu'est-ce que vous êtes en mesure de leur proposer? Parce qu'on sait que c'est un travail qui est quand même un peu de longue haleine en fait, d'être vigilant sur sa manière d'utiliser et de consommer les écrans. Qu'est-ce que vous pouvez déjà proposer aux personnes auprès de qui vous intervenez pour mettre un pied là-dedans et prendre la bonne direction?
Alors là, il va y avoir, ça va dépendre un petit peu dans quel cadre on va rencontrer les personnes. Au collège, lycée, hein, effectivement, si on voit, il peut y avoir des choses préoccupantes un peu qui sont partagées par des enfants. Hein, quand on parle, par exemple, sur des sujets autour du harcèlement ou sur le temps passé, voilà, effectivement. Et dans ce cas-là, on a l'occasion d'échanger hein, avec les enseignants derrière pour voir si eux-mêmes voilà, ont repéré ces problématiques par rapport aux élèves qu'on puisse confier et voir si ils partagent un peu ce constat, ce dialogue et voir justement s'il y a un risque hein, parce que voilà, il n'y a pas forcément un risque immédiat, mais s'il y a un risque de voir qui éventuellement au sein de l'établissement hein, peut soit se mettre en lien avec les parents pour dire bah tiens, il y a eu telle intervention et voilà, il y a telle chose qui est remontée, ça pourrait peut-être être intéressant que vous en parliez avec votre fils, votre fille. Enfin voilà, encourager un dialogue en famille sur le sujet. Après, ça peut être via le relais de l'infirmière scolaire, par exemple, hein, si on voit qu'il y a des choses qui mériteraient peut-être d'être discutées et puis que voilà, l'enfant n'était pas prêt à en parler à ses parents. Voilà, il y a aussi au sein même des établissements des personnes qui sont tout à fait aptes à voilà accueillir une parole, à l'écouter, à l'accompagner. Et en toute discrétion, ouais, ça c'est tout à fait aussi possible. Ouais, et puis ensuite, bien évidemment, quand on est voilà en présence de dans le cadre où on peut avoir directement un lien avec les parents, c'est nous en lien avec les parents qui remontons des choses.
Hein.
Okay. Voilà, donc ça va dépendre un petit peu. L'idée, c'est de surtout pas laisser les enfants seuls. Après, effectivement, quand il n'y a pas péril en la demeure ou autre, ou pour des interventions, voilà, on a toujours l'occasion de leur proposer d'aller voilà regarder tel contenu ou tel film ou de lire un livre ou voilà sur des sujets qui les intéressent hein, et de creuser un peu par eux-mêmes ou justement avec leurs parents telle ou telle problématique hein. Après effectivement ils ont nos coordonnées mais bon des très jeunes ne feront pas la démarche évidemment de nous appeler directement. Mais voilà, c'est vrai que ça nous arrive d'avoir des échanges aussi avec des collégiens ou des lycéens après hein, des interventions.
Et là, du coup, justement, face à ce constat récurrent, en tout cas dans les écoles primaires d'enfants qui partagent en fait leur souffrance face au temps passé, leur non-maîtrise, parce qu'ils se réveillent la nuit, parce qu'ils vont se lever tôt le matin, parce qu'ils se rendent compte que ça a un impact sur leur santé, en fait, ou une obsession en classe, hein, certains qui vont partager, mais en fait, je pense qu'à ça, en fait, là, mon jeu vidéo, il est là, et en fait, le fait de revenir, ça réactive, et ils expriment une souffrance. Face à ce constat récurrent, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose aussi dans la durée, et c'est pourquoi, en fait, en janvier, on va ouvrir un lieu d'accueil, en fait, et d'écoute, pour prolonger, en fait, justement, une action. Parce que nos interventions scolaires sont un peu des coups d'épée dans l'eau, enfin voilà, même si c'est pas inutile, hein, pour pouvoir aller plus loin. Et effectivement, quand on va voir des enseignants avec qui on a un échange suite à des paroles données par des enfants sur cette souffrance liée à l'hyperconnexion, bah, l'idée c'est d'aller plus loin et de pouvoir rencontrer les familles, échanger, rencontrer le jeune et faire une action dans la durée. Comme tu disais, Lorraine, ça se fait pas du jour au lendemain. Et du coup, on est en train voilà, d'élaborer une manière d'accompagner dans la durée, notamment les enfants, voilà, avec le soutien de la famille, évidemment, mais, voilà, pour répondre à cette souffrance des plus jeunes, en tout cas.
Super initiative. On en reparlera à la fin de l'épisode pour savoir où retrouver ce point d'accueil et toutes vos références.
Je repense à une des questions que tu avais posées,
oui.
Ce qui est récurrent. En fait, on se rend compte que quand des adultes sont en groupe et que un commence à oser dire moi je pense que j'y passe trop de temps, que voilà, quand je suis avec mes enfants, ben j'arrive pas à le poser, et même si intérieurement je me dis que ce serait le moment et où je m'enferme dans les toilettes, où je le fais enfin voilà, avant de dormir je suis dans mon lit avec mon smartphone, et que les personnes commencent à se dire ah, y a sûrement un problème, et que d'autres osent prendre la parole. Ce qui est extra, c'est quand les personnes commencent à donner leurs astuces et leurs conseils. Ah, ben moi, je mets en mode avion de telle heure à telle heure, et hop, c'est parti. Et je trouve ça extraordinaire, cette dimension collective autour de ce sujet. En fait, un, pour déculpabiliser, et secondo, aussi pour se donner des astuces, parce que nous, on peut en donner, on en a plein, comme toi aussi, enfin, voilà, des petits conseils. Et en fait, entre pairs aussi, c'est intéressant de pouvoir voilà, et s'encourager. Et de la même manière que pour les enfants, bah, une intervention une fois et on part, bah, c'est pas suffisant. Et là, l'idée aussi dans ces groupes de parole, c'est de pouvoir aussi dans la durée se dire, ben voilà, on se retrouve, tiens, qu'est-ce qui a marché, pas marché, yes, j'enchaîne plus les séries sur Netflix, j'arrive à regarder que 3 épisodes à la suite. Et voilà, du coup, et ça, on croit beaucoup aussi à cette dimension collective aussi pour pouvoir commencer à entrer dans une déconnexion, une saine connexion.
C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai relevé de plusieurs fois que vous avez évoqué. Tout simplement, ouvrir le dialogue sur le sujet, j'ai l'impression que c'est quand même une manière de voir qu'on n'est pas seul, encore une fois, de se déculpabiliser et de se donner des astuces. Et comme j'aime bien proposer un challenge à la fin des épisodes, je pensais d'ailleurs à celui-là, à déclencher une conversation autour de l'hyperconnexion et à comparer ses usages avec quelqu'un ou plusieurs personnes autour de soi, de faire un goûter des connexions et parler de son rapport au téléphone portable ou quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est quelque chose qui ressort. Donc à la fois, par vos interventions, vous ouvrez le sujet, mais c'est un sujet qui doit se démocratiser et être évoqué naturellement. Et en plus, en général, je sais pas comment c'est pour vous, mais avant même que je parle du podcast, avant même que je parle que j'ai un intérêt pour ce sujet, on sent très bien que quand ça vient naturellement, après les gens sont inarrêtables et ont beaucoup à dire sur le sujet. Et donc, je trouve ça super de pouvoir en parler.
On parlait des discussions qu'on avait avec les jeunes, des moyens aussi de leur faire prendre conscience. C'est vrai que la prise de conscience, pour certains, c'est le début d'un chemin. On est intervenu l'année dernière, en fin d'année scolaire, dans un lycée, et on avait organisé à la demande du lycée un certain nombre de jeux sur la pause de midi, voilà, justement pour aborder ces questions d'hyperconnexion avec les élèves sur un mode un peu, voilà, ludique. Mmh. Et puis la dernière jeune fille que j'ai eue à mon atelier, c'est pour ça que je m'en souviens aussi, et sa réaction m'avait marqué. C'était une élève de terminale. Qui, en découvrant justement l'outil qui permet de mesurer le temps d'écran au sein de son smartphone, vous voyez, en terminale, on pourrait dire, elle connaît, elle sait, voilà, mais elle n'avait jamais mis le nez dedans. Et en regardant ses temps d'écran, elle regarde, puis elle voit hier TikTok 4h30.
Okay.
Puis spontanément, elle me dit, non, c'est pas possible, 4h30, hier j'étais en cours. Et là, il y a eu un blanc, et elle est repartie, en fait, en disant, oh la vache, 4h30. Et ça, elle a vraiment, à ce moment-là, j'ai bien senti qu'elle a pris conscience. Évidemment, elle savait qu'elle faisait du TikTok, elle ne l'a pas découvert, mais qu'elle arrivait à passer 4h30 rien que sur TikTok un jour de cours, et ça a été pour elle vraiment une révélation. Et je pense à la façon dont elle a réagi, il y a eu un après. Alors après, moi, j'étais là, mais on sent que, voilà, quand on parle de prise de conscience, des fois, c'est ça aussi, c'est de se dire « ah oui, quand même ». Et là, après, voilà, soit le jeune ou la personne va dire « ah oui, dis donc, c'est beaucoup, puis… » Mais là, voilà, ça peut être aussi le début d'un chemin, cette prise de conscience pour dire, il va peut-être falloir que je change des choses.
Oui, et puis il y avoir des déclics comme ça.
Des déclics, exactement. Ouais.
Donc, on a Cyril qui a dû partir pour une autre intervention. Bah, du coup, vous t'interviens auprès des maternelles. Mais comment tu sensibilises déjà des maternelles à cet âge-là où tu peux avoir accès à des écrans, mais pas vraiment conscience de problématiques?
Eh bien, on y va avec des marionnettes. On va parler aux primaires, en fait, avec des marionnettes qui vivent eux-mêmes dans un univers où il y a des écrans. Donc, on a une famille lapin, assez connectée. Une autre famille qui aimerait bien un peu se déconnecter. Enfin, et voilà, un petit personnage principal, en fait, qui est en dialogue avec les enfants. C'est-à-dire qu'on a un personnage, en fait, qui... c'est un raton laveur, en fait, qui s'appelle Mademoiselle Candy. Et qui échange avec les enfants, et déjà avec un premier dialogue, en fait, en leur montrant un objet, une télé, etc. Puis on leur dit, tiens, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous utilisez? Et déjà, ça, on entre en dialogue et on se rend compte que déjà en maternelle, les enfants peuvent utiliser pas mal d'écrans, en fait, ont leurs propres écrans, ont un vieux smartphone ou une tablette à eux. En tout cas, on sent déjà chez les enfants maternels l'appétence pour l'écran, et c'est assez intéressant, du coup, de dialoguer avec eux, de les laisser, en tout cas, sortir tout ce qu'ils aiment, et ensuite d'entrer en dialogue petit à petit, notamment pour inviter à pas ancrer cette habitude de « je m'ennuie, je fais un écran ». C'est vraiment le cœur, en fait, de cette intervention. De les faire réfléchir un petit peu à, quand ils s'ennuient, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et on se rend compte que déjà des enfants ont installé cette habitude de je m'ennuie, ben du coup, quand ils vont dire à papa ou maman je m'ennuie, en fait ça sous-entend que je peux faire un temps d'écran en fait. Et on essaie de l'amener de manière un peu détendue et ludique, donc à travers un petit spectacle de marionnettes. D'ailleurs, le titre du spectacle, c'est « Maman, je m'ennuie
».
On commence okay. comme ça, avec ce petit personnage qui ouais. ne cesse de dire de façon lancinante « Maman, je m'ennuie !» ben, qui rejoint quand même pas mal de familles, pour qu'au final, on invite les enfants à s'interroger sur ce qu'on peut faire quand tous les écrans sont rangés dans une boîte, en fait. La télé éteinte, la console est rangée, le smartphone de maman dans le sac, enfin... Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Et en fait, on les invite à cette réflexion, bah tiens, comment on s'occupe autrement, en fait ? Quand il y a ces petits moments de battement, les parents préparent le repas ou rangent leur sac. Et au final, en fait, à la fin de ce spectacle, on invite à fabriquer, en fait, pour l'instant, on est sur une boîte et on est en train de préparer une espèce de tote bag, avec ces petites ressources magiques que peuvent être la trousse de crayons, un petit coloriage, un petit jeu de dés, pour occuper ces petits temps d'ennui jusque dans la salle d'attente, en fait. Hein. C'est comment on occupe ces temps-là. Et on a cette conviction, en tout cas, que si on installe petit à petit des habitudes autres que je dégaine mon smartphone au moindre temps d'ennui, bon, bah, ce sera ça de gagner, quoi. Et les adultes, du coup, même à l'issue du spectacle, nous disent mais même moi, je suis pris par le piège. Hein. Je suis dans une salle d'attente, je suis dans une queue en grande surface, dans un bouchon, enfin aux toilettes, n'importe où. J'ai voilà, ces petits laps de temps, hop, je dégaine en fait. Et on invite les enfants, en tout cas, à éviter d'entrer dans ce dégainage systématique de l'écran quand il y a un temps mort.
Oui, savoir qu'il y a des alternatives et ça va pas à être un mode par défaut dès qu'il y a un ennui, quoi. Et donc, ouais, donc tu vois des enfants qui sont enthousiastes à la fin de ces interventions pour faire autre chose que dans les écrans, tu vois de la réceptivité dans.
Oui, vraiment, parce que ce qui est assez amusant, c'est que du coup, certains s'émerveillent en fait de cette boîte qu'on montre à la fin. Je dévoile démarrage un peu le spectacle, mais de cette boîte avec un livre, avec voilà une corde à sauter, un puzzle, et c'est extraordinaire de les voir s'émerveiller de ces choses qui paraissent si simples finalement, et de donner de la valeur en fait. Et après, quand on discute avec les enfants du comment on pourrait faire, il y a un vrai enthousiasme. L'enjeu pour nous, c'est que du coup, les parents saisissent l'enthousiasme, en fait, de leur enfant pour voilà, prendre le sujet en main et inviter les enfants, effectivement, à avoir à portée de main à la maison voilà, cet espace d'occupation et peut-être d'accepter aussi de temps en temps, ben, je m'ennuie, c'est pas grave, en fait. Enfin, alors, je le dis un peu rapidement, en sachant que pour certains, ça peut être vraiment anxiogène d'en s'ennuyer, donc voilà, je m'étale pas trop sur le sujet. Après, il faut connaître aussi son enfant et sa capacité de supporter un temps mort, etc. Et en même temps, quand on dit aux enfants, s'ennuyer, c'est bon pour la santé, pour la créativité. Et certains le découvrent. Et une des pistes à venir, c'est de faire expérimenter des temps d'ennui en classe. On l'a pas encore élaboré, mais voilà, on est en train d'imaginer comment on pourrait faire vivre des expériences, en fait, où on s'ennuie ensemble, en fait.
C'est vrai que du coup, on voit que finalement, les écrans, le principal point, en tout cas, d'accroche, c'est que c'est quelque chose de très stimulant, tentant, etc. Et donc, c'est pour ça que ça devient facilement un mode par défaut. Mais donc, par le discours, par l'animation, vous rendez les autres activités aussi aussi attrayantes. Et on voit qu'on peut orienter un petit peu aussi l'image, la vision que va avoir l'enfant de ses autres activités, de ses alternatives.
Donc
c'est super chouette de voir que, bah oui, l'enthousiasme n'est pas mort avec le temps d'écran. Au contraire, il faut juste savoir réussir. C'est pas toujours facile, mais du coup, les interventions, c'est une bonne manière d'entamer les choses, mais réussir à les sortir un petit peu de l'écran pour pouvoir leur remontrer à quel point il y a plein de choses super à faire à l'extérieur et que finalement, ils vont se sentir aussi bien, voire même mieux en faisant ces choses. C'est enthousiasmant, en fait, de t'entendre parler de ça et de voir que les enfants réagissent. Parce qu'on a tendance, tu sais, à avoir un discours de face aux écrans, les enfants se deviennent apathiques, on peut plus communiquer avec eux, etc. Ce qui sont des conséquences réelles. Mais au final, ça reste des enfants et si on arrive
à réactiver, en fait. C'est ça. Voilà, ouais. La créativité, l'enthousiasme, en fait, ils la saisissent, en fait. Et du coup, c'est extraordinaire, du coup, de voir que les enfants, comme tu dis, restent des enfants et que, voilà, tout est encore possible, en fait. Et que, justement, comme tout est encore possible, eh bien, il faut leur donner quand même un peu de connaissance, en fait. Alors, elle est très simple, mais de dire que si on ne maîtrise pas l'outil, si ce n'est pas moi qui décide d'aller vers l'écran pour faire un temps déterminé, etc., il y a un risque que petit à petit, ce soit l'écran qui me dise « viens, viens, reste avec moi ». Et on voit bien que des enfants réagissent à ça et se reconnaissent en fait. Et que finalement, bah, ils voudraient bien que ce soit autrement. Et c'est encourageant pour les parents aussi, qui sont parfois démunis en disant « mais voilà, je maîtrise plus quand j'arrête, il fait une crise ». Alors ça, on en discute aussi avec les enfants. Pourquoi c'est si difficile d'arrêter et que parfois on peut se rouler par terre notre souhait, c'est d'être vraiment en soutien des parents hein, dans cette éducation aussi au temps d'écran. Voilà, pour donner aussi un médiateur voilà, et qu'il puisse revenir dessus. Voilà, pour encourager l'enfant, bon, on va passer à autre chose, quoi. Mais il y a une manière de faire aussi.
Donc on voit aussi qu'il n'est jamais trop tôt pour parler des écrans, de son rapport aux écrans, des impacts que ça a, des conséquences, pourquoi c'est compliqué. C'est intéressant aussi.
Ouais, là, on commence en petite section et ça passe, en fait. Alors, ouais. Du coup, il faut adapter le langage, mais ils sont capables de reconnaître une télé, une tablette, un smartphone. Ils voient les parents, de toute façon, avec. Alors, d'ailleurs, c'est assez croustillant, des fois, ce que les enfants disent des adultes. Hein. Et c'est vraiment, ça mériterait vraiment un spectacle dans l'autre sens. Hein, pour le coup. J'y pense. Et en même temps, ce qu'on fait pour vraiment pas décrédibiliser les adultes, c'est de dire, vous voyez, les adultes d'aujourd'hui, ben, il n'y avait pas tous ces outils et ils n'ont pas eu, comme vous, une éducation aux écrans, etc. Donc, c'est jamais trop tard. Enfin, on essaie de tourner les choses, en tout cas, pour ne pas dire oui, les adultes aujourd'hui sont comme ci, comme ça, etc. Et c'est l'occasion aussi, même aux parents, de dire ouais, peut-être que moi aussi, on va le faire en famille, on va peut-être réajuster certains usages, au contraire. C'est vraiment une affaire collective, hein, ce sujet. On se rend bien compte que. Soit tout seul avec sa famille, c'est compliqué, alors que quand on va fédérer des personnes à l'échelle d'une école, d'une commune, et ben moi j'y crois beaucoup, et ben on va s'encourager et puis aussi donner à voir aux enfants des adultes qui s'interrogent, qui réajustent des usages, et c'est jamais trop tard, ça. Et ça, c'est un point essentiel, en fait.
Oui, c'est jamais trop tard pour s'y intéresser, pour changer son usage, pour en parler autour de soi. Je me demandais, pour conclure un petit peu, on a un petit peu évoqué au début les différences de milieux sociaux. Est-ce que tu voudrais alarmer sur peut-être des publics prioritaires qui auraient des problématiques particulières ou qui seraient délaissés ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient par rapport à cette thématique ?
Un des sujets qui vient comme ça, dans certains milieux, en fait, on va demander aux parents d'utiliser des outils numériques, notamment, je pense, aux ENT, les environnements numériques de travail, pour communiquer avec l'école. Et des parents qui ont peut-être un smartphone mais pas d'ordinateur qui vont pas pour le coup être vraiment démunis. Et il n'y a pas que dans des quartiers prioritaires, hein, même d'autres familles, et du coup qui vont être démunis face à leur enfant et l'outil, en fait, pour l'utilisation de cet outil, quoi. Et du coup, avec un décalage où on va retrouver des enfants qui vont gérer même l'espace numérique des parents sur l'ENT. Donc voilà, on se rend compte, en tout cas, hein, dans nos actions, qu'on peut être face à des publics, soit parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de la langue française ou parce qu'ils n'ont pas l'équipement, tout simplement, hein, un ordinateur, par exemple, qui va permettre aussi d'utiliser des outils que leurs enfants sont censés aussi utiliser. Donc là, pour l'éducation au numérique, et ça devient vraiment... ça, c'est une vraie problématique, quoi. Voilà, ça, il y a un vrai enjeu, en tout cas, à accompagner les familles à l'usage de ces environnements numériques de travail pour l'utiliser dans son meilleur aspect. Moi, je rencontre des parents, du coup, qui vont voir tous les jours les notes de leurs enfants. Et du coup, une espèce d'addiction aux notes. Alors qu'avant, ben, voilà, on recevait le bulletin à la fin du trimestre. Ou quand le devoir revient, en fait. Le devoir revient, on a la note et on discute. Voilà, il y a quelques usages comme ça qui sont pas toujours très ajustés.
OK.
Voilà. Et par rapport à la question des milieux, pour le coup, hein, comme on le disait au début du podcast, tous les milieux sont en tout cas touchés par ces difficultés, en tout cas d'usage, à la fois pour eux-mêmes comme adultes ou dans la transmission aux enfants et la maîtrise en fait du temps passé par leurs propres enfants. Et après, parfois, dans les différents milieux, même des milieux précaires, en fait, vont vouloir équiper pour être aussi au même stade que tout le monde, en fait, un super équipement avec le dernier iPhone, etc., alors qu'il n'y a même pas d'ordinateur à la maison, quoi.
Mmh.
Et du coup, ça, voilà, on est plutôt là sur des questions de fracture numérique, mais là, c'est un vrai enjeu dans les quartiers, en tout cas, d'accompagner les familles. Dans la partie aussi connaissance de l'informatique, de la bureautique et de ces outils qui sont censés aussi permettre une communication avec le milieu scolaire et le travail pour les enfants. Faire une recherche sur un smartphone, c'est quand même moins pratique que de la faire quand même sur un ordinateur.
Oui, tout à fait. Donc, on voit que la fracture numérique, ça peut aussi renforcer les inégalités d'éducation et de sensibilisation,
Ah
parce que
oui.
si on ne maîtrise pas du tout l'environnement numérique, on va encore moins maîtriser celui de son enfant et poser des cadres et des limites. Et j'imagine que ça va encore plus s'accentuer et se ressentir après dans les addictions comportementales aux
Mais
écrans.
complètement, surtout dans des univers en fait où le numérique c'est surtout du ludique en fait, où
Oui.
le numérique sert à jouer, à visionner et à communiquer, et pas du tout à travailler. Et du coup, dans des milieux en fait où le numérique ne sert pas à travailler avec un ordinateur, etc., c'est difficile de transmettre du coup à travailler sur un ordinateur. Et là, il y a un vrai défi pour le coup d'aider les familles qui connaissent peu cet univers informatique, bureautique. Pour que justement les enfants ne soient pas dans un usage uniquement ludique, distractif
Ouais.
des outils numériques, quoi.
C'est difficile effectivement d'avoir ces outils qui sont à la fois des supports de travail et de la porte d'entrée à toutes ces dérives qu'on a expliquées, à toutes ces tentations de divertissement et à tous ces aspects ludiques. Eh ben, je pense qu'on a déjà couvert pas mal de choses. C'était mon objectif de voir un petit peu un état des lieux du ressenti général face à l'hyperconnexion, de quel point les personnes sont sensibilisées, sensibles au sujet, de quelles sont les problématiques principales et les ressentis principales. J'ai l'impression qu'on a évoqué tout ça, donc c'est parfait. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur Dictia, sur votre actualité, sur ce que vous faites, où vous retrouvez et sur l'ouverture de ce point d'accueil?
Effectivement, l'activité prend de l'ampleur. On a formé des intervenants pour aller dans le milieu scolaire, hein, primaire, collège, lycée, pour déployer l'activité du coup à l'échelle de la Bretagne et des Pays de la Loire. Et là, on sent la nécessité d'avoir un lieu d'accueil pour que les personnes puissent venir poser une question, rencontrer aussi quelqu'un, voilà, concrètement aussi, par rapport à une souffrance, hein, personnelle ou familiale. Et du coup, l'ouverture de ce petit lieu, dans un premier temps, on rêve plus grand pour après, mais on y va par étapes, c'est de pouvoir proposer des temps d'ouverture libres et puis des rendez-vous aussi pour écouter les familles, accompagner voilà, sur des sujets comme l'achat du premier smartphone. Pour moi, c'est un vrai défi. Comment accompagner l'achat du premier smartphone et comment poser avec l'enfant une première règle? Moi, ça devrait être généralisé, en fait, que avec chaque premier smartphone, on donne un mode d'emploi, d'usage, une règle, etc., posée avec la famille. Donc ça, c'est voilà, un projet qu'on est en train de réfléchir pour pouvoir le déployer largement. Et dans ce premier lieu, voilà, on pourra aussi accueillir les personnes, voilà, même en service après-vente, hein, une fois que le smartphone est acheté et qu'on est dépassé parce qu'on ne maîtrise plus l'usage de son enfant. Donc, en tout cas, cet accompagnement personnalisé nous semble important parce que quand on est en atelier, en conférence, même si en atelier, il y a une dimension un peu plus personnelle qu'en conférence, Certaines familles, il y a des problématiques spécifiques propres à la famille ou propres à la personne. Et à un moment donné, ben voilà, il faut rentrer dans le concret et l'accompagnement de la personne ou de la famille. Donc voilà, ça, on le fait déjà un peu, mais c'était très ponctuel et on communiquait pas du tout là-dessus parce que voilà, on pouvait pas le déployer plus que ça. Mais
Bien sûr.
maintenant, voilà, ça, on sent la nécessité, donc on ouvre ce lieu à Hennebont, en fait, là, dans un petit local au 181 rue Maréchal Joffre. Et il ouvrira début janvier, en fait, voilà, pour accueillir les personnes.
Effectivement, ça ne m'étonne pas parce que là, on a parlé de l'hyperconnexion d'une manière très générale et justement des points communs un peu à tout le monde, mais évidemment, ça reste des cas particuliers sur lesquels c'est intéressant de s'attarder, de voir les spécificités parce qu'on est tous différents, on a tous un rapport différent, on a tous une psychologie et des points d'accroche différents qui vont, des problématiques qui vont pas du tout être les mêmes d'une personne à une autre, même si évidemment il y a un tronc commun. Donc, je trouve ça très intéressant que vous fassiez cet accompagnement et effectivement, le sujet de. Premier smartphone, il y a des points clés aussi dans la vie,
Oui,
j'imagine. T'en aurais d'autres à
complètement.
citer comme ça, un petit peu, qui te viennent. Le premier smartphone, c'en est un énorme. Peut-être
Voilà.
le passage aussi à l'autonomie quand on est jeune adulte et qu'on va se gérer vraiment
Quitter la
seul.
maison, voilà, c'est ça, ouais.
Ouais.
Et puis toute la question autour des contrôles parentaux, hein,
Ouais.
du coup, qui peuvent être, alors là, pour le coup, en amont, hein, à partir du moment où des enfants vont sur des outils type smartphone, tablette, télévision connectée, cette question de l'installation d'un contrôle parental pour les plus petits, en tout cas. À la fois sur le temps passé, mais surtout sur la question des contenus, en fait. Je rencontre beaucoup d'enfants, en fait, en primaire, qui sont tombés sur des contenus inadaptés à leur âge et qui n'ont jamais osé en parler aux parents, en fait. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et du coup, voilà, ça, c'est un autre sujet, hein, par rapport à l'hyperconnexion et en même temps, qui nécessite, pour le coup, vraiment un accompagnement. Et quand même sur la question du temps passé sur les écrans chez les petits, et là c'est une première étape en fait hein, sur cette question des écrans avant 3 ans qui fait partie normalement des recommandations, le fameux pas d'écran avant 3 ans. Voilà, on ne peut pas l'imposer but en blanc aux parents parce que pour une raison ou pour une autre, les parents voilà, vont l'utiliser. Et là on peut accompagner les parents soit dans... Voilà, des choix de contenu, des idées d'autres activités, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas toujours évident. Et puis, pris dans le quotidien, ben voilà, ça peut demander aussi un accompagnement. Donc, effectivement, à la question de l'équipement, des enfants, on parlait du smartphone, mais ça peut être aussi d'une console de jeu, d'une tablette. En tout cas, à partir du moment où un enfant va avoir son propre équipement, ça mérite, en tout cas, de la part des parents, une réflexion et un cadre d'usage qu'il faut poser idéalement avant l'équipement. Et souvent, les parents viennent nous voir après, en fait. Et c'est plus difficile de revenir en arrière,
Ouais, bien
alors que
sûr.
quand on l'a posé en préalable avec des échéances, des étapes, voilà, c'est plus facile à gérer. Mais ça suppose que les parents aient entendu que potentiellement, avant l'équipement, on va voilà, mettre en place quelque chose pour cadrer l'usage, quoi.
Ok, donc ça c'est un très bon indicateur justement à donner aux auditeurs qui pourraient être parents. Avant chaque autonomie sur un appareil, vraiment poser un cadre donc avec l'enfant, discuter ensemble et comprendre les règles et pourquoi. C'est encore mieux si on arrive à discuter de pourquoi elles sont établies, quelles sont les
C'est ça.
dérives, quels sont les risques, sans parler de danger et de tomber dans le pathos, comme tu disais, mais en tout cas en expliquant, OK, ça fonctionne comme ça, ça a un impact sur ton cerveau, ça, donc forcément, tu vas être tenté, c'est normal, mais il faut qu'on reste dans ces règles pour que tu le vives bien, pour qu'on le vive bien et pour que ça reste sain et que ça ne devienne pas un usage problématique. Mais donc, voilà, fixer des règles, je trouve ça effectivement. C'est un bon rappel, ça peut paraître simple, mais en fait, c'est vrai que je ne suis pas sûre que ce soit un réflexe encore établi aujourd'hui dans notre relation aux écrans. Ça me fait penser, tu vois, c'est rigolo, mais encore en tant qu'adulte, par exemple, là, moi, je n'ai pas de montre connectée, mais si demain je décide d'en avoir une, quel cadre je me fixe? Est-ce que je peux voir mes notifications dessus et être dérangée? Est-ce que je la laisse entrer dans ma chambre ou pas? C'est intéressant aussi de se re-questionner sur dès qu'on a un usage différent. J'ai un smartphone moyen, pas très bien, et puis je passe à un super smartphone, super rapide, avec un grand écran saillant. Qu'est-ce que je change dans ma relation? À quoi je fais attention? Se former un cadre aussi, c'est intéressant, je pense.
Oui, de mettre des mots en fait sur son usage est essentiel en fait. Et tout ça dans un équilibre de vie. Parce que quand On interroge les enfants sur voilà, le nombre d'heures de sommeil nécessaires, le temps pour voilà, le quotidien, l'hygiène, se nourrir, etc., le temps de travail, etc. On voit le temps libre, entre guillemets, hein, qui reste dans une journée. Et en fait, là, on peut faire le parallèle avec le temps d'écran. Et en fait, et ça, c'est intéressant, et d'où l'importance, hein, d'établir une règle avant, sans tout centrer sur l'écran, en fait. Hein, voilà, et en centrant d'abord sur le bien qu'on va viser pour moi, pour ma croissance, etc. Ça, ça nous semble quelque chose d'essentiel. C'est qu'on vise un bien, en fait. Enfin, la règle, en fait, elle vient accompagner le bien que je vise, en fait, pour ma santé, ma scolarité, etc. Et c'est pas une règle pour me contraindre, m'empêcher. Au contraire, elle va permettre de déployer tout le reste. Et ça, c'est un point essentiel. C'est-à-dire que, du coup, quand on veut imposer une règle, et même nous, comme adultes, voilà, qui est une espèce de lourd fardeau, ça fait pas rêver, en fait.
Ouais.
Voilà, et de pas tout centrer sur l'écran, en fait. Hein. Pour nous, l'objectif, c'est de décentrer même l'écran du trône sur lequel on le met aujourd'hui. Donc, voilà, on met tout le reste avant, et ensuite, il reste un peu de temps pour les écrans.
Oui, c'est comment je développe mon potentiel d'être humain pour me sentir bien, pour être au top de ma forme, de ma santé, de mon physique, mental, etc. Et quelle place ça laisse aux écrans finalement là-dedans. C'est super intéressant de décentrer, comme tu dis, de l'écran, et ça permet de souffler un petit peu aussi et de se dire bon, ok, les écrans diaboliques là, ça va.
Oui, c'est ça,
ouais. On lâche. Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie de me sentir? Et ensuite, oui, il restera une place pour les écrans, mais ce sera celle qui me restera parmi tout le reste que je veux mettre dans ma vie, quoi.
Exactement, et du coup la manière de penser le rapport aux écrans va être aussi plus pertinente. Finalement, quand j'ai un temps d'écran, ça veut dire quoi, en fait? Et du coup, ça peut être parce que j'aime la photo, j'aime développer. Est-ce que je connais les logiciels aussi pour faire des montages photos, montages vidéo? Il y a des trucs extraordinaires. Et pour nous, ce qui nous semble essentiel, c'est aussi d'aller creuser, développer tout ce qu'il y a de génial, en fait, dans l'usage de ces technologies, et souvent qu'on sous-exploite pour aller regarder des... Je ne citerai pas de nom, mais des vidéos. Enfin, voilà, c'est aussi d'encourager, en fait, à aller chercher tout le potentiel extraordinaire de ces technologies. Parfois, nous, des enfants, en fait, passionnés de jeux, etc., on sent qu'il y a une vraie appétence. Et on leur dit, tiens, est-ce que tu t'intéresses à l'informatique? Est-ce que tu sais coder, etc.? Et en fait, c'est des mots qu'ils n'ont parfois jamais entendus. Et en fait, des fois, on suscite l'intérêt chez l'enfant d'aller plus loin. Et ça, c'est extraordinaire. Et de dire, il n'y a pas juste, allez, je le lâche, il n'y a pas juste TikTok, Snap et YouTube, quoi. Ouais. C'est sympa, mais il y a autre chose. Et en fait, aujourd'hui, on est un peu pris dans un univers, en fait, où quelques grosses sociétés, voilà, on envahit cet univers, en fait, numérique, et on ne voit qu'à travers, en fait, ce qu'ils nous proposent. On peut peut-être faire autrement, en fait. Et c'est pas eux de décider de notre temps, de ce qu'on va faire, etc., du contenu qu'on va regarder. Et on va se reprendre en main, on se retrousse les manches, et on dit, moi, qu'est-ce que je voudrais faire sur le numérique? Mais ça suppose que je le connaisse. Et ça, c'est un vrai défi pour aujourd'hui, quoi. Et on reprend la maîtrise. Et si on connaît bien cet univers et qu'on en reprend la maîtrise, eh ben on perdra moins de temps à... Allez, on y va, à regarder des trucs débiles.
Ouais. Ah, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que pour les nouvelles générations, il y a un petit peu ces œillères où le numérique, ça ressemble de plus en plus aux réseaux sociaux. Et jeux vidéo, ouais, tout à fait. Et donc, une fois qu'on a ces yeux et qu'on est dans ce tunnel, bah déjà c'est un tunnel qui est très enfermant, parce que plus on y passe de temps, plus on a envie d'y passer de temps, etc. Mais surtout, comme tu dis, on passe à côté d'énormément de choses. Et si j'aime être sur les écrans, si j'aime l'informatique, si j'ai une curiosité pour ça, ben au final, elle va se lisser et se s'évaporer dans les réseaux sociaux, qui sont intéressants pour à des égards, mais pas trop consommer et pas consommer de manière inconsciente et apathique et automatique. Mais par contre, effectivement, dire ok, t'aimes passer du temps sur l'ordinateur, mais est-ce que tu t'intéresses au code et tout ça? Je trouve que c'est une super manière de décentrer et de dire ok, cet outil n'est pas problématique si tu l'aimes, d'accord, mais qu'est-ce que tu pourrais aimer d'autre que les réseaux sociaux? Et si t'aimes vraiment que les réseaux sociaux, eh ben c'est que c'est autre chose qui te plaît là-dedans, c'est que c'est voir tes amis, c'est que c'est rigoler, c'est que c'est quel contenu tu consommes et qu'est-ce que tu peux en faire à l'extérieur aussi. Donc, en général, je finis par un challenge.
Un challenge où on ose se regarder en face. Moi, je trouve ça très bien.
Okay.
Parce que une personne avec qui on va lancer, voilà, le premier atelier de déconnexion En tout cas, de dialogue entre adultes hein, qui ont envie de s'interroger, de déconnecter. La personne me disait, mais est-ce que les personnes vont oser se regarder en face? C'est la première étape. Et parce que certains n'ont pas forcément envie de voir, en fait.
Bien
Donc, au
sûr.
contraire, lancer ce défi de, allez, j'ose regarder mon usage, le temps que j'y passe, les moments, etc., de les réinterroger, éventuellement d'aller un peu plus loin en disant, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais changer? Génial.
Super, c'est parfait. Eh bien, ça me convient très bien. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci à Cyril qui a dû partir un peu plus tôt. Et puis, on vous retrouve donc à Hennebont sur votre nouveau lieu d'accueil de Dictia et puis sur votre site internet. Merci beaucoup, Gaëtan. Et puis à la
Merci
prochaine.
Lorraine. Ouais, à la prochaine. Ciao.
Merci d'avoir écouté notre échange. On a abordé plein d'aspects très différents, des constats très généraux sur la sensibilisation et des cas particuliers. Mais ce que je vous invite particulièrement à retenir de cet épisode, ce sont ces quelques points. N'hésitez pas à parler d'hyperconnexion autour de vous. On culpabilise tous de ne pas avoir une relation parfaite à nos écrans, tout comme on n'a pas de routine de sport idéale ou qu'on ne s'est pas encore mis à la méditation. Mais si vous en parlez autour de vous, vous vous sentirez moins seul dans ce combat et vous aurez sans doute les meilleures astuces de votre entourage, que ce soit des applications ou des outils qu'ils peuvent utiliser. Deuxième point, on peut parler d'hyperconnexion, même aux plus jeunes, à condition de trouver le bon angle et les bons mots. Également, tout comme les adultes, les enfants et les ados hyperconnectés ne sont pas forcément heureux d'être hyperconnectés et de cette hyperconnexion. N'hésitez donc pas à en parler autour d'eux, à échanger, à voir s'il y a un mal-être et éventuellement à consulter si c'est le cas ou en tout cas à mettre en place des règles en famille. On a aussi parlé de décentrer l'écran de son hyperconnexion. Ok, je suis trop souvent en ligne, mais qui est-ce que je veux être finalement quand je ne suis pas connectée? On a aussi vu que nous n'avions pas tous les mêmes outils, les mêmes connaissances et les mêmes accès, mais que bien souvent nous rencontrons les mêmes problématiques en matière d'hyperconnexion. Et enfin, faites-vous accompagner par des professionnels si vous ne trouvez pas les armes. Et j'en profite pour vous reparler de l'association Internet sans crainte qui donne pas mal de ressources pour les ados et pour les enfants quand il s'agit de relations à Internet. Si vous voulez en savoir plus sur le travail de Gaëtan et Cyril, vous pouvez aller faire un tour sur leur site internet dictia.fr, dyktia.fr. Vous y retrouverez leur formation et accompagnement à l'usage des outils numériques. Mais en plus, depuis ce mois de janvier, comme on l'a évoqué dans l'épisode, Cyril et Gaëtan vous reçoivent dans leur nouveau lieu d'accueil à Hennebont, dans le Morbihan, près de Lorient. Je vous remets toutes les informations en description de l'épisode. Merci encore à eux pour leur confiance et d'avoir enregistré cet épisode avec moi. Pour finir, je vous rappelle le challenge de Gaëtan. Osez observer honnêtement votre utilisation des outils connectés. Merci pour votre écoute. On se retrouve maintenant tous les premiers mercredis du mois pour un épisode long avec un expert et tous les premiers dimanches du mois pour un épisode plus court et spontané en solo. Pour plus de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à aller consulter la description de l'épisode ou mon site etsituposaistontel.com. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aller mettre un cœur au podcast sur Spotify, un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, ou me laisser un petit commentaire sur YouTube, Threads ou Instagram pour me faire savoir ce que vous avez pensé de l'épisode. C'est toujours super intéressant d'avoir vos retours. On se retrouve dimanche prochain, et en attendant, bonne déconnexion!